Au risque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, Pierre-Paul Delvaux à Maritsou avec le Père José Willibald Michaud pour approfondir cette pause que nous avons entamée il y a déjà deux émissions, pause à la fin du chapitre 10 de Saint Jean. Vous vous souvenez que c'est bien l'épisode de la Samaritaine qui est l'occasion de cette réflexion, épisode où il est écrit que Jésus devait passer par la Samarie et il s'assied au pied du puits de Jacob. Il est harassé et nous voulons vraiment souligner ici que Jésus récapitule l'immense pèlerinage de l'Ancienne Alliance. Et nous avons évoqué dans la première émission Abraham, Jacob et Moïse, et dans la deuxième émission toute une série de prophètes comme Élie, Amos, Osée et le grand Isaïe. Dans la troisième émission, nous allons revenir certainement sur le poème de la Consolation d'Israël, sur le livre de la Consolation d'Israël avec ce fameux portrait du serviteur souffrant. D'abord un mot peut-être, Père José, sur le prophète Daniel qui vit au deuxième siècle, si je vois bien, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et qui a cette fameuse expression « le Fils d'homme ». Je cite, « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » Voilà une proclamation très solennelle, mais il y a cette fameuse expression « fils d'homme ».
Ça vient donc plusieurs siècles après le second Isaïe. Hein. Donc Daniel, un des derniers prophètes, mais c'est plus un apocalypticien qu'un prophète. C'est même lui qui crée le style et la mode des apocalypses.
Il y aura beaucoup d'apocalypses d'ailleurs, juste avant Jésus.
Hein. Il y en aura beaucoup au temps de Jésus, et je crois que c'est important d'en parler maintenant, parce que notre époque, ou plutôt la jeune génération de notre époque, a comme retrouvé le goût de l'apocalypse, le goût d'une fin des temps tragique, catastrophique, spectaculaire. Donc c'est assez important de voir quel est le sens des apocalypses dans la Bible.
Et alors Père José, nous allons revenir au livre de la Consolation d'Israël dans le deuxième Isaïe, ce deuxième Isaïe qui s'étend des chapitres 40 à 55. Et c'est un portrait important, le portrait du serviteur souffrant, parfois identifié à Jacob. Comment faut-il comprendre ce passage qui est probablement un des plus énigmatiques et un des plus significatifs de l'Ancien Testament?
Mais alors, pour lire ce poème, il faut le lire d'abord comme un poème. Il en a la fluidité, la souplesse et le mystère. Il y a plusieurs personnages dont les thèmes s'entremêlent. L'un des premiers, et ça c'est un appui historique, c'est Cyrus, l'empereur Cyrus, qui est le libérateur de tous ces peuples écrasés jusqu'alors par la Syrie ou la Babylonie. Et le sort que l'on fait à Cyrus est tout à fait incroyable. Cyrus, par le poète, est mis dans la main de Dieu. Il est un instrument de Dieu. Cyrus, c'est la toile de fond historique de ce poème. Parce que donc, en 538, vers les années 540, Cyrus maîtrise tous les empires qui l'environnaient et devient l'Alexandre de l'époque. Et en 538, Cyrus écrit un édit extraordinaire qui libère tous les peuples emmenés en captivité par Nabucodonosor et les Babyloniens. Il les renvoie chez eux et leur donne non seulement la permission, mais presque le mandat de rétablir leur propre religion. Cyrus avait quelque chose d'universaliste. Il avait une ouverture d'esprit extraordinaire. Et donc, la personnalité de Cyrus interfère dans tout ce poème. Alors, le second, c'est le peuple. Le peuple emmené en captivité est ici identifié, personnifié dans la personne de Jacob. Jacob ou Israël, puisque les deux noms interfèrent. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Israël, d'Abraham, mon ami. Donc, le poème s'adresse au peuple opprimé, éprouvé, presque désespéré. Et puis, à l'intérieur de ce peuple, dans le chant suivant, émerge peu à peu une figure alors plus individuelle, qui est celle d'un personnage de rang royal, éprouvé jusqu'à la racine, méconnu, méprisé, qui va jusqu'au bout de l'ignominie et dont la sérénité, la grandeur d'âme, la liberté devient libératrice, salvatrice pour lui-même et pour le peuple. C'est une figure libératrice.
Citons ce fameux chapitre 53, versets 3 et 4. Il était méprisé et déconsidéré. Oui. Or, c'était nos souffrances qu'il portait. Ce sont des versets importants dans la liturgie du Vendredi Saint. Oui. Vous écrivez, Père José, que ces portraits de serviteurs souffrants aident à entrer dans la lente découverte du sens et de la valeur de la souffrance traversée. Je me plais à souligner l'idée de souffrance traversée parce que souvent on a utilisé ces textes et cette figure du serviteur souffrant en le tirant du côté d'un certain dolorisme, justement.
Et un certain masochisme, alors.
Et même un certain masochisme.
C'est un contresens. Ici, c'est un libérateur, ce serviteur souffrant.
Et donc ce n'est pas une souffrance tout court, mais c'est une souffrance traversée.
Traversée, qui aboutit quelque part.
Et qui donc, en quelque sorte, est féconde, un petit peu comme le combat, la blessure de Jacob.
Ah, mais tout à fait. C'est une figure de la liberté irréductible.
Et donc vous considérez que ce texte est peut-être un des plus fondamentaux de l'Ancien Testament ?
Ah oui, je crois. Il me semble que l'évocation de l'expérience du serviteur souffrant et celle de Job sont probablement les deux percées les plus profondes de l'intuition spirituelle d'Israël. Alors, on s'est interrogé sur l'identité de ce serviteur. Il y a des théories tout à fait diverses. Les uns voient en lui le dernier roi d'Israël avant la destruction de Jérusalem et l'exil, qui fait prisonnier par Nabucodonosor, qui lui fait crever les yeux et l'emmène enchaîné à Babylone. La figure de cet écrasement et cette humiliation du roi pourrait servir de déchiffrement à la figure du serviteur souffrant. D'autres y voient le peuple, une personnification du peuple. Et c'est vraisemblable aussi, puisqu'on parle de Jacob, mon serviteur, race d'Israël. Et alors la troisième hypothèse serait Jérémie. Mais Jérémie a été emmené de l'autre côté, en Égypte. Et ce n'est pas, c'est pas Ézéchiel. On n'a jamais avancé l'idée d'Ézéchiel. Mais donc vous avez le roi écrasé, le peuple éprouvé, ou un des derniers prophètes, dont Jérémie.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette idée de souffrance traversée, c'est bien ce que Jésus va faire dans sa passion et sa résurrection. Il va la traverser.
Tout à fait. C'est la figure la plus proche, comme annonciatrice de l'événement Jésus. Et on comprend que la première catéchèse chrétienne se soit référée par prédilection à ce texte.
Nous allons faire une pause musicale, Père José, avec un extrait du petit livre d'orgue de Jean-Sébastien Bach par Benjamin Thiel. Sur RCF, nous continuons à évoquer toutes les résonances bibliques par rapport à Saint Jean et nous approfondissons Isaïe. Alors, Père José, il y a aussi un petit peu plus loin dans le texte d'Isaïe, justement, celui qu'on appelle le troisième Isaïe, oui. Il y a de très belles expressions. Dieu est père de tout son peuple. Oui. Il est aussi un mari qui se réjouit face à son épouse. Je cite, « On ne te nommera plus délaissé, ni la terre abandonnée, mais on t'appellera ma plaisance, et ta terre, on t'appellera épousée, car tu plais à Yahvé, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton architecte t'épousera, et comme le mari se réjouit de son épouse, ton Dieu se réjouira de toi. » Et puis, il y a un autre texte, c'est le fameux psaume 103, versets 13 et 14, qui est bien connu, je pense, de nos auditeurs. « Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes. »
Absolument. Donc, là, dans ce texte, qui est postérieur au livre de la Consolation, il y a l'insistance, la découverte et l'insistance sur la profondeur humaine de la tendresse de Dieu, comparée à celle d'un époux. Donc, c'est un thème qui va être accrédité dans la spiritualité d'Israël. Dieu est l'époux de l'humanité élue. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, probablement, qu'on ait annexé dans le canon le Cantique des Cantiques, qui est la célébration purement de l'amour sous toutes ses formes. Et de l'amour, je ne dirais pas conjugal, c'est de l'amour d'un amant pour son amante.
Alors, il y a encore d'autres notes que nous pouvons ajouter, si vous voulez bien. C'est encore dans un psaume, c'est le psaume 42-43. « Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. » Là, on sent qu'il y a une intériorité, une intimité. Et puis il y a le fameux psaume prophétique 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous dites à propos de ces deux psaumes qu'il y a cette soif de l'intériorité. On a vraiment là tout un itinéraire où on voit cette attente, cette conception de Dieu évoluer.
C'est ça. Et alors là, dit en clair que la piété, la religion, la foi est une relation de personne à personne. Et c'est que nous avons à faire, nous sommes en face d'une personne vivante, sensible, et que la sensibilité de cette personne peut prendre des traits extrêmement humains. Et ça, c'est tout à fait émouvant. Et je cite aussi cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit « Traiter avec Dieu comme avec un père, comme avec un frère, comme avec un maître, comme avec un époux, choisissant tantôt l'une, tantôt l'autre de ses qualités, lui-même vous apprendra celle qui lui agréera davantage. » C'est dans le chemin de la perfection de Thérèse d'Avila. C'est très proche de l'intuition biblique. Ça.
Et puis, vous ajoutez une note intéressante, c'est qu'on peut dater de cette époque que nous évoquons une autre méditation très spirituelle et poétique, qui est le grand poème du premier chapitre de la Genèse, Père José, qui vous est très cher, puisque vous l'avez traduit avec tellement de bonheur. Et c'est justement, vous soulignez le surgissement à partir d'un néant ténébreux d'un être de lumière. Oui. Le surgissement, c'est un mot qui vous est familier.
C'est ça le message de ce poème. N'oublions pas que c'est un poème, c'est pas du tout une définition philosophique ou scientifique de ce qu'on appelle la création. C'est une évocation de ce que pourrait être la présence vivifiante qui donne vie, la présence créatrice qui fait surgir de l'univers entier. Mais c'est vécu et senti comme un poème.
Et je me plais à faire un lien avec ce bruit de fin silence, ce bruit de silence tenu. Oui. Cette présence est une présence d'une incroyable discrétion, d'une incroyable puissance en même temps.
Et elle n'a rien à voir avec la théorie d'un dieu fabricateur, par exemple.
Et rien à voir aussi avec tout le tintamarre que l'on peut imaginer comme lié à la puissance.
Oui, ou le créationnisme. Oui, tout à fait.
Alors, ce qui est très intéressant, Père José, et nous sommes en train de boucler notre long périple, c'est qu'après l'exil, il n'y a plus que quelques rares prophètes. Il y a tout de même prophète Zacharie et Malachie, ce sont vraiment les dernières, pages de l'Ancien Testament.
Les écritures prophétiques, oui. Donc, Zacharie, fin du 4e siècle, début du 3e, et Malachie, encore plus proche, alors peut-être 2e siècle. Donc nous sommes très proches du Christ et de Jean-Baptiste. Mais Zacharie est un visionnaire dont les textes sont étonnants quand même, cette vision qui pressent, qui d'ailleurs se rattache à l'expérience du serviteur souffrant, il pressent un Messie souffrant et libérateur par sa souffrance à traverser une fois de plus. Et quant à Malachie, c'est l'homme du tri, lui, du choix et du tri. Et c'est pour ça que Malachie ramène du passé Élie, le grand trieur du peuple élu. Et le texte de Malachie est assez impressionnant. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive mon jour, grand et redoutable. Et puis alors il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Anathème. Donc Malachie est un prophète un peu coléreux et vengeur, plus que Zacharie. Et Jean-Baptiste va reprendre ce langage.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, nous avons un petit peu bouclé tout ce périple. Et vous notez aussi, Père José, que les prophètes que nous venons d'évoquer assez longuement, les prophètes ont changé le sens du temps.
C'est ça.
Désormais linéaire, tendu vers une fin, vers un aboutissement. Les prophètes d'Israël ont vraiment apporté ça à l'humanité ?
Je crois que là... Du point de vue de l'histoire des idées, les prophètes ont eu une intuition décisive pour l'humanité. Ils ont changé le mouvement du temps.
Ce n'est plus le temps cyclique, exactement. C'est le temps qui va quelque part.
Exactement. Oui, c'est une révolution philosophique, culturelle, radicale, qui change le sens de la vie. Et je me rappelle, j'avais à Lyon un grand professeur qui était lui-même un prophète et qui nous avait montré combien le christianisme avait perdu le sens de certaines valeurs et de certaines découvertes fondamentales de l'Ancien Testament, dont celle-là. Et il dit, nous avons perdu le sens prophétique. Et il a été alors récupéré, mais à la pointe de l'épée, par le marxisme, qui a repris vraiment la sensibilité des témoignages prophétiques et qui a redonné au temps un sens, un dynamisme, un mouvement, mais qui est en marche vers une fin des temps qui est... Le triomphe du communisme ou du monde ouvrier.
Oui, Marx disait à quel point le christianisme avait apporté l'idée de rupture possible dans une sorte de continuité et donc l'idée révolutionnaire qui permet de changer.
Mais je me rappelle que ce professeur dont je parle, Père Gann, concluait son cours par une phrase dont j'ai encore le souvenir. Qu'est-ce que vous voulez, dans les derniers siècles d'Église, on a tant fait voir au Saint-Esprit qu'il a foutu le camp dans les terrains vagues où il fait des siennes.
Et justement, Père José, je crois que nous pourrons conclure avec cette phrase qui a l'air anodine, tellement elle est entrée en nous, peut-être, c'est cette évocation de l'Esprit. Tout ce que nous venons de dire à propos des prophètes qui ont changé le sens du temps se résume dans cette belle phrase de Saint Jean, « Le vent, tu entends sa voix ». Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout qui naît de l'Esprit. Je pense que ça conclut magnifiquement bien notre périple. Merci Père José.
Merci à vous.
Et nous vous laissons, chers auditeurs, avec des extraits du petit livre d'orgue de Jean-Sébastien Bach, interprété par Benjamin Thiel à l'orgue Le Picard de l'abbatiale Paix Notre-Dame à Liège. Au revoir. Et à bientôt.